EMCI TV vous présente À table avec Annabelle, votre podcast francophone chrétien 100% féminin. Prenez place à table avec Annabelle pour des discussions authentiques, fun et profondes, empreintes de la parole de Dieu.
Peut-être que tu te dis, tu sais, Dina, elle avait des gens autour d'elle, elle n'était pas une orpheline, mais elle est restée. Donc ça veut dire que je peux être une adulte, j'ai fait des grandes études, je suis bien habillée, on me voit, j'ai l'air, tac, la fille vraiment là, 30 sur 30 quoi. Mais ma réaction me montre qu'en fait, au fond de moi, je suis la fille qui a été brisée. Au fond de moi, je suis Dina parce que je réagis d'une manière. Comment je peux m'attacher à mon agresseur? Peut-être parce qu'au fond de moi, je pense que c'est tout ce que je mérite. Pourquoi est-ce que je pense que c'est ça que je mérite? Parce que, et c'est comme ça que le Saint-Esprit vient faire un travail dans notre âme. Et ça, c'est important de le faire avec le Seigneur. Parce que si on le fait par nous-mêmes, l'émotion est trop forte, le choc est trop fort. Peut-être ça peut nous terrasser, en fait.
Hello tout le monde, heureuse de vous retrouver encore aujourd'hui, mercredi, pour un nouvel épisode d'À table avec Annabelle. Et si vous nous avez suivis lundi, ce que j'espère, ce que je crois de tout mon cœur, eh bien vous savez que nous sommes avec Nadine. Bonjour Nadine.
Bonjour Nadine.
Stéphanie.
Quelle politesse.
Je suis contente de vous voir.
Ouais,
étudiante.
Oui. Et Nadine, tu es venue parce que tu nous aimes, parce que tu as envie de venir nous voir, mais aussi parce que tu as écrit un livre et pour cela, nous voulons te dire félicitations.
Merci.
Bravo. Maintenant que tu as écrit ce livre, eh bien, c'est important que vous lisiez ce livre, parce que c'est un excellent livre. On a commencé à en parler lundi. Et puis, dans ce livre, tu prends le portrait de combien de femmes exactement ?
Neuf femmes
de la Bible. Et on peut se dire, désolé, hein, ça, on dirait que je te fais une contre-publicité, mais tu vas voir qu'après, ça va
J'ai
tourner en bien.
Non,
on se dit un livre chrétien avec neuf histoires de femmes chrétiennes, de femmes de la Bible, ça fait un peu bateau, un peu cliché. Mais non, pas du tout, parce que tu l'as amené d'une façon tout à fait inédite, en tout cas pour moi, je trouve, où tu as pris ces histoires de femmes et tu les as racontées dans un contexte moderne de façon à ce qu'on puisse s'identifier et que, bah, au-delà du contexte d'un pays ou d'une façon, peut-être d'une culture dans laquelle on va pas s'identifier, et quand on va lire notre Bible, bah, on passe à côté de certaines choses. Tu as su faire ressortir les problématiques des femmes, et tout en montrant aussi l'action de Dieu dans la vie de ces femmes. Puis on se rend compte, bah, que finalement, Dieu est toujours le même, que Dieu est toujours bon, que Dieu a toujours aimé les femmes et a été présent dans des cas où des femmes ont été oubliées, ont été maltraitées, négligées. Et puis on voit aussi que, bah, le cœur de la femme a tout le temps été un petit peu agité ou blessé par les mêmes choses. C'est des choses qui existent encore aujourd'hui. Et puis quelquefois on se dit, ah, j'ai pas de solution, je sais pas comment faire. Mais en fait, bah, on se rend compte que ces femmes de l'Ancien Testament notamment, elles ont des vies similaires aux nôtres. Fallait juste que quelqu'un puisse nous le montrer et le mettre dans un contexte plus moderne. Et tu l'as fait, Nadine.
Oui.
Merci.
D'où le titre, je suis comme elle. C'est tellement beau, Nadine.
Exactement.
Nous sommes comme elle.
Oui. Exactement. Je suis comme elle.
De la Bible.
Et je vous encourage à réécouter l'émission de lundi où Nadine, dans laquelle Nadine explique comment elle a reçu cette idée d'écrire le livre et puis un petit peu son parcours. C'est toujours intéressant de savoir comment ça s'est passé. Chacune a un parcours différent. Donc aujourd'hui, on veut continuer, Nadine, et on veut aller voir une autre femme. Une autre femme, et franchement, ça a été une de mes histoires préférées. Donc, est-ce que c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui? Je ne sais pas.
Toi, l'animatrice de l'émission.
Non, mais c'est une de mes histoires préférées dans ton livre, mais c'est une de mes histoires les moins préférées dans la Bible.
Ouais.
C'est genre une histoire que j'ai tout le temps envie de sauter parce que je la trouve vraiment pas belle, en fait. Et la manière, tu m'as réconciliée, en fait, avec ce passage, et peut-être avec une forme d'incompréhension autour de cette histoire. Et nous parlons de qui? Alors, hier, lundi, Stéphanie a deviné. Aurélie.
Quelle révélation!
T'as vu que moi,
Merci,
on est des filles.
Un peu, là.
Merci beaucoup.
Oui, Dina, c'est une histoire difficile.
Oui.
Et c'est beau ce que tu disais, Annabelle, en introduction. C'est Omer qui me le disait. Omer, c'est mon mari. Mais on parlait...
Et Omer, on dit souvent la même chose.
Il est trop fan de toi, Omer, en plus. Il aime trop tes prédications. Mais il me disait, en fait, que c'était un outil vraiment de... C'était un ministère. C'est ça le mot qu'il avait utilisé. Parce que c'est vrai que c'est pas juste pour écrire. Je crois vraiment que oui, c'est vrai que j'ai raconté que j'ai pris du temps pour le faire, mais je crois aussi qu'à travers ça aussi, les choses se sont vraiment assises pour que le Seigneur puisse utiliser chacune des histoires. Et c'est pas que des histoires tragiques, hein. Il y aura aussi d'autres histoires des femmes de la Bible qui vont nous inspirer dans d'autres domaines de la vie. Mais aujourd'hui, on parle de Dina, et Dina, c'est une histoire tragique parce que Dina, c'est la fille de Léa. Mm-hmm. Et on a parlé de Léa lundi, et Dina est la seule fille au milieu de 11 garçons. Elle avait 11 frères, et Dina va avoir un épisode traumatique qui va lui arriver, Dina va être violée. Et déjà là, je tenais à parler de cette histoire parce que des fois, on a des traumas qu'on a vécu, que personne n'est au courant ou qu'on a dû cacher parce que c'était douloureux, c'était honteux, on était incomprise. Et de dire vraiment aux victimes qu'on est une victime, qu'on n'est jamais collaborateur ou voilà, co-acteur de notre agression. Et ça, c'est important de le dire. Parce que des fois, lorsqu'on vit quelque chose d'aussi traumatique, on ne sait pas à qui parler. Et quand on même parle à quelqu'un, qu'est-ce qu'on va faire ? L'événement a déjà eu lieu. Mm-hmm. Mais ce qu'on peut faire par la suite, c'est de rassurer cette personne que ce n'est pas ta faute. Ce n'est pas parce que tu étais habillée d'une certaine manière. Ce n'est pas parce que tu es allée au rendez-vous. Ce n'est pas parce que tu l'as laissé venir te raccompagner à la maison. Ce n'est pas parce qu'il n'y a rien que tu as fait. C'est l'agresseur qui a pris la décision en son âme et conscience d'enfreindre une ligne, voilà, d'aller au-delà de ton consentement. Et ça, c'est important qu'on le sache. Mais puis après, maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Et dans le passage de Dina, qui n'est pas très long, on voit que Dina a été agressée. Et la Bible dit que Sichem, donc la personne qui l'a agressée, a su parler à son cœur. Et moi, ça m'a toujours frappée. J'ai dit, mais comment il a su parler à son cœur, en fait ? Et on voit dans l'histoire que Sichem va même aller voir voilà, Jacob avec son père et en disant, voilà, on est venu la demander en mariage. Et voilà, et puis les frères vont dire, pas de souci, mais il faut que vous fassiez la circoncision parce que voilà, c'est notre signe d'alliance. Et pendant qu'ils sont circoncis, au bout de 3 jours, ils sont faibles. Tous les hommes du village, les frères, ils viennent, Lévi et son frère, ils viennent. Et puis, ils tuent les gens du village. Mmh. Et c'est comme ça qu'ils prennent Dina. Dina était restée, c'est Sichem. Et en fait, quand je parle de « Je suis comme elle », le Seigneur m'ouvre les yeux sur l'histoire de Dina. Tu vois comment un trauma peut après affecter le comportement de quelqu'un. Mmh. Et des fois, on rencontre quelqu'un dans son comportement, mais on ne sait pas d'où le comportement vient. Et c'est le comportement, en fait, c'est juste la devanture de quelque chose de plus profond, de plus caché. Et ce traumatisme qu'elle a vécu, et pourtant elle était aimée de ses 11 frères, elle aurait pu retourner chez eux, elle aurait pu voilà, avoir des gens qui étaient prêts à se sacrifier. Ils ont mis leur vie en danger pour pouvoir, entre guillemets, sauver son honneur ou laver son honneur. Mm-hmm. Mais malgré ça, elle est restée. Parce que c'était tellement fort, c'était tellement difficile comme situation que ça l'a clouée, en fait. Et donc, du coup, dans le livre, on parle de cette histoire, mais le trauma, ça peut être ça, ça peut être de l'abus, parce qu'il y a énormément d'abus quand même, il faut se le dire. Il y a beaucoup de gens qui ont vécu des abus, que ce soit dans la famille, au travail, voilà, un ami, etc., un ex-conjoint. Mais qu'est-ce qu'on fait après ? Et vraiment que les femmes sachent d'abord de un que... Et je me fais même un chapitre en la Dina, qui parle à la Dina d'aujourd'hui, en te disant, ben, je te comprends, c'est pas ta faute, tu n'es pas sale, tu n'es pas disqualifiée, tu n'es pas finie, t'as quand même quelque chose, Dieu t'a vu, Dieu a vu ça. Et Dieu, il veut te restaurer, en fait. Et ça, c'était vraiment important pour moi d'en parler.
Et tu vois, dans l'histoire de Dina, ce qui est un petit peu difficile à comprendre, c'est qu'on passe d'un épisode de violence, de viol, quand même violente. Elle va se promener et elle rencontre ce jeune homme, il la viole. Et après, c'est comme on bascule dans une histoire quasiment romantique et qui termine par un meurtre où tu te dis, mais finalement, elle était tombée amoureuse et puis ils l'ont tuée. Et ça crée comme une confusion. Ouais. Et en fait, bah, c'est exactement ce que crée ce genre de relation. C'est une confusion où la jeune fille, souvent ça va être une jeune fille, ne sait plus, en fait. Et c'est là, elle ne sait plus qu'elle est une victime. Elle ne sait plus si qui était l'agresseur. Est-ce que c'était Sichem? Est-ce que c'est mes frères? Mais les deux, en fait, ont commis un acte de violence. Et là, tu te retrouves, mais qui m'a défendu? Qui m'a attaqué? Et ça devient très flou. Et c'est pour ça que beaucoup de jeunes filles se retrouvent dans des situations où elles n'osent pas parler parce qu'elles vont se dire « Oui, mais peut-être quand même, comme tu l'as dit, peut-être tu vois que j'ai eu un attachement. Je suis restée. Après, qu'est-ce qui m'a empêchée de rester ?» Je pense souvent, particulièrement à des jeunes filles, vraiment des jeunes filles, peut-être 14 ans. Et puis là, elles rencontrent un homme 30 ans. Et en fait, il y a comme une relation qui s'installe et il y a une relation sexuelle. Et puis après, on va dire, mais elle était consentante, etc. Mais à quel point elle était consentante, dans le sens où à quel point est-ce qu'un homme de 30 ans va vers une fille de 14 ans pour lui dire on peut avoir une relation amoureuse. Il peut se passer quelque chose entre nous et qu'une jeune fille de 14 ans, qui est encore une petite fille au final, je sais pas, elle a pas, tu sais, t'as pas la maturité, c'est quoi l'amour? Peut-être que je me fais manipuler, etc. Et après, tu vis avec cette confusion. Mais est-ce que je le voulais? Est-ce que c'était moi? Est-ce que peut-être que j'ai eu des sentiments? Mais moi aussi, je suis allée vers cet homme. J'ai voulu, je l'ai appelé. Et c'est là où tout se mélange et que même l'entourage, après, va dire « Mais attends, si tu ne voulais pas, tu pouvais dire quelque chose. » Et tu vois, toute la confusion qu'on peut avoir dans l'histoire de Dina, de toutes les parts, de toutes les perspectives, c'est vraiment cette confusion émotionnelle et spirituelle que crée l'abus. Et quand on n'en a pas parlé et que tout se mélange. Et merci parce que tu viens vraiment éclairer ce genre de relation.
Et tu parles même de 14-30 ans. Parfois, c'est vraiment un cas avéré dans le sens que c'est un mineur. Mais il y a des personnes qui sont adultes et qui ont vraiment aussi ce rapport-là qui entraîne cette confusion. Et quelquefois, parce qu'on est adulte, on va même plus facilement le justifier que si c'était un mineur. Mais c'est vraiment important de ne pas justifier ça, en fait, de ne pas rester dans cette espèce de truc bizarre. Et par rapport à l'histoire de Dina, moi, j'ai l'impression aussi que c'est quand même une succession de malheurs, quelque part. Tu vois, c'est comme tu as dit, c'est comme un coup, on te viole. De l'autre coup, c'est comme si c'est ton histoire d'amour qui est complètement détruite. Donc, c'est comme une succession de malheurs. Et quelquefois, justement, quand on est déjà dans cette position où émotionnellement, on est faible parce qu'on a été abusé, etc., il y a d'autres choses qui peuvent arriver. Et c'est comme si le but de l'ennemi dans tout ça, c'est vraiment de t'anéantir au plus profond. Et c'est comme ça qu'on va se retrouver aussi avec des femmes qui ont des caractéristiques similaires, où c'est comme si elles étaient au plus bas, du bas, du bas, du bas. Et c'est important d'avoir des réponses, parce que c'est des problèmes très difficiles. C'est pas des choses qui se règlent en un coup de pouce. Et avoir une perspective comme ça, où la Dina d'hier vient parler à la Dina d'aujourd'hui, moi je trouve que c'est tellement important. Parce que c'est pas des petits problèmes, tu vois. C'est des choses tellement profondes qu'il faut apporter des réponses, des solutions concrètes à ces choses-là.
Et tu vois, tu disais, Annabelle, que ses frères ont réagi et Sichem a agi. Et elle n'a rien fait, en fait. Elle n'a pas parlé. Et des fois aussi, dans des cas d'abus, c'est que tu n'as pas parlé, en fait. Tu n'as jamais parlé, tu es resté comme ça, c'est passé. Peut-être que tu parles de la jeune fille, l'adolescente, qui l'a peut-être dit à quelqu'un, qui a couvert, qui a dit, écoute, c'était une fois, on n'en parle plus. Ouais. Et là, tu grandis, tu te dis, OK, c'est fini, c'est derrière moi. J'ai jamais parlé, j'ai jamais vraiment dit ma part à moi, tu vois. Je reste avec cette confusion-là, et puis j'avance. Mais après, quelque chose d'autre arrive. Comme je disais lundi, c'est nos réactions sont des indicateurs. Et c'est dans laquelle l'autre chose que tu vois que je suis Dina, en fait. Quand je dis je suis comme elle, c'est que tu parlais, Aurélie, des adultes. Peut-être que tu te dis... Tu sais, Dina, elle avait des gens autour d'elle. Elle n'était pas une orpheline, mais elle est restée. Donc, ça veut dire que je peux être une adulte. J'ai fait des grandes études. Je suis bien habillée. On me voit, j'ai l'air, tac, la fille vraiment, là, 30 sur 30, quoi. Mais ma réaction me montre qu'en fait, au fond de moi, je suis la fille qui a été brisée. Au fond de moi, je suis Dina parce que je réagis d'une manière. Comment je peux m'attacher à mon agresseur? Peut-être parce qu'au fond de moi, je pense que c'est tout ce que je mérite. Pourquoi est-ce que je pense que c'est ça que je mérite? Et c'est comme ça que le Saint-Esprit vient faire un travail dans notre âme. Et ça, c'est important de le faire avec le Seigneur. Parce que si on le fait par nous-mêmes, l'émotion est trop forte, le choc est trop fort. Peut-être que ça peut nous terrasser, en fait. Mais c'est alors que le Seigneur te dit, ah tiens, c'est vrai que moi, j'ai telle réaction. D'où ça vient? Et là, le Seigneur est en train de te montrer, et cela, ça veut dire, ok, c'est le jour de la guérison aujourd'hui, on va ouvrir la porte, ok, Esprit de Dieu, rentre dans cette situation et commence à travailler.
Et on parle de viol dans ça, mais il y a aussi des gestes inappropriés. Mm-hmm. Tu sais, des fois, on se dit, ben, il ne m'a pas violé. Ou il y a eu... Mais c'est inapproprié ça rentre dans ton intimité. Et c'est là que ça devient tout dans ton esprit un peu en
pleine mouille.
Parce que tu dis, ouais, parce que ce que j'ai comme tu dis, Annabelle, est-ce que j'ai fait quelque chose? Est-ce que j'ai souri? Est-ce que j'étais assis? Puis là, même tu dis, ben, si je dénonce, est-ce que je vais être crue? Mm-hmm. Et ça, c'est ça, est-ce que je vais être crue? Alors, et il y a plein de gestes. Et ça, c'est tellement important de le dire parce que statistiquement, je pense que c'est au moins une femme sur quatre qui a été victime de gestes inappropriés jusqu'au viol. Et bien sûr, et vous serez surprise aussi dans la famille.
Oui.
Donc, imagine-toi comment je peux. Si je parle, va détruire ma famille. Mais si je parle pas, je vais détruire ma vie aussi. Donc, s'il y a des Dina qui nous écoutent, juste de s'arrêter, tu sais, puis de dire, il faut que je parle. Il faut que je parle
aux bonnes personnes.
Parce que ça va me détruire et aussi briser la culpabilité malsaine. Parce qu'il y a beaucoup de femmes, elles sont prises avec une culpabilité. La saine culpabilité, c'est je fais mal, je me sens mal. Mais la culpabilité malsaine, c'est que j'ai rien fait. Puis dans un acte comme ça, j'ai rien fait pour mériter ça. Il faut que je le dise. Et ça met de la honte, ça met tout ça. Et Dieu veut vraiment libérer les femmes. Et ça, il y en a partout, aux quatre coins de la planète, des femmes qui ont vécu ça. Puis ils ont honte de le dire, puis ils ont honte. Il faut le dénoncer. Je trouve ça excellent, Nadine, que tu en parles dans ton livre.
Mais tu dis, si je parle, ça va détruire ma famille. Mais dans le cas de Dina, on voit qu'en fait, dans son silence, il y a eu une réaction qui,
tout à fait,
tous les cas, a détruit plus qu'une famille. Donc, c'est de prendre conscience que chacun est responsable de ses actes et que s'il y a une famille qui... Après, il y aura des conséquences, il y aura des répercussions, mais c'est difficile à se dire et puis à accepter. Mais en fait, ce n'est pas de ma faute. Parce que moi, j'ai rapporté une information parce qu'il y a une violence qui m'a été faite. Mais ce n'est pas moi en tant que telle qui détruit la famille. C'est la personne qui a posé cet acte inapproprié. Mais quand on est dans la situation, on a du mal à l'accepter et à le voir. Et c'est pour ça qu'on fait ce genre d'émission. C'est pour le dire. Ce n'est pas toi qui détruis la famille. Ce n'est pas toi qui as fait quelque chose de mal. Donc, ce n'est pas à toi d'en porter la faute. Et puis, en plus, d'en porter le poids et puis de te dire sur moi repose... Ouais. Repose tout de la paix.
Mais aussi dans nos cercles chrétiens, le piège, c'est de confondre le pardon. C'est que tu dis, ben, je suis chrétienne, donc il faut que je le pardonne. Mais pardonner, ça ne veut pas dire dénoncer. Ne pas dénoncer. Ne pas dénoncer. Pardonner, ça ne veut pas dire faire comme si de rien n'était. Balayer ça sous le tapis. Tu sais, tu peux être dans un processus de pardon parce que c'est vrai qu'après des actes de violence comme ça, il y a le pardon qui te libère, toi. Mais ça ne veut pas dire que parce que Dieu me demande de pardonner, me demande d'oublier, de faire comme si de rien n'était et que la personne n'a pas à prendre responsabilité pour les actes mauvais qui ont été faits, les gestes qui ont été posés. Donc, c'est là qu'il faut... Je peux aimer Jésus de tout mon cœur, je peux être dans un processus de pardon, mais la personne qui m'a fait ça, elle est responsable de ses actions.
Et c'est pour ça que l'entourage aussi est important, parce que, tu sais, je veux dire, les frères de Dina ont réagi de façon violente, mais Jacob, lui, n'avait rien dit, tu vois. Et plus tard, il va dire à ses fils, ben, vous m'avez exposé en agissant ainsi, etc. Et des fois, dans la réaction de l'entourage... On peut avoir une réaction comme tu dis, oh, mais non, mais il faut couvrir la famille. Oh, mais c'est arrivé qu'une seule fois. Ah, mais on aura honte. Et on commence à penser à tout ça, oubliant que la première personne, la première victime, c'est notre fille qui est là. Et cette autre personne, cet agresseur, il doit savoir qu'il a mal agi et il doit ne plus jamais faire ça à quelqu'un d'autre, en fait.
Absolument.
Et même juste le regard que nous aurons par rapport à la victime va faire toute la différence. Imagine, tu viens raconter quelque chose et on te dit, mais toi, qu'est-ce que tu faisais là-bas d'abord? Il était quelle heure? Tu étais habillée comme moi, etc. Mais tu enfonces en fait cette personne.
Absolument.
Et des fois, en tant qu'entourage, on ne se rend pas compte que Dieu veut passer par nous aussi pour exposer cette situation, pour exposer cet agresseur. Et c'est notre réaction qui va faire la différence, à savoir, est-ce que cette personne va s'en sortir ou bien ça va être un poids qu'elle va porter. Et toute sa vie, elle aura des réactions qui seront rattachées à cet événement-là.
Moi, je crois qu'en tant qu'entourage, justement, et j'ai écouté quand même plusieurs histoires où, justement, les personnes ont même parlé, mais c'est l'entourage qui a tassé l'histoire pour ne pas exposer la famille, un peu comme on est en train de dire. Et vraiment, comme tu le disais, Nadine, c'est comme si la personne victime, est brimée quelque part. Tu vois, on ne la considère pas. Et j'ai même entendu des histoires dans lesquelles on a laissé l'agresseur et la victime dans la même maison, encore,
absolument,
ensemble.
Oui, tout à fait.
Et ça, on trouve ça parfois normal, juste pour une question de « je ne veux pas exposer ma famille ». Et en tant qu'entourage, c'est pas normal, en fait. Ça veut dire qu'on est vraiment en train de sacrifier une vie, parce que demain, cette personne-là est grandie. Mais comme tu dis, il y a des réactions, tu ne sais pas d'où ça vient. Elle grandit même dans un environnement dans lequel elle n'est pas sécure. Les personnes qui étaient censées la protéger, qui parfois sont même des parents qui ont juste couvert, qui étaient censées la protéger, cette personne se retrouve en fait pas en sécurité dans sa propre maison, exposée, et dans plusieurs cas, ces personnes ont recommencé. Mmh. Ça veut dire que la petite parole où tu vas dire à la personne qui l'a fait « Ah, mais c'est bon, on arrête, on couvre l'histoire, mais ne le fais plus, etc. », ça ne fonctionne pas souvent.
Non.
Et c'est vraiment important de prendre des vraies mesures et de dire « Mais non, ça peut pas, on peut pas juste laisser un agresseur et une victime dans la même maison. Mmh. On ne fait rien en comptant sur la bonne foi de la personne en face. »
Il y a beaucoup, on va en parler après, mais de relations mère-fille, notamment, qui sont brisées à cause de ça, parce qu'il y a eu un manque de prise de responsabilité. Mmh. Et puis, surtout, lorsque tu es enfant, bah, tes parents sont là pour te protéger. Et même s'ils ont souffert, même s'ils ne savaient pas comment faire, bah, au final, c'est que l'enfant, même en grandissant, se dit à ce sentiment, j'ai pas été protégée.
Oui, absolument.
On l'a pas fait. Puis ça laisse comme une profonde insécurité qui, après, va se manifester de différentes façons. Et ça peut donner des femmes qui vont avoir des caractères, on a l'impression qu'elles ont des caractères très forts, mais en fait c'est parce qu'elles ont un constant besoin de se protéger, parce que le message que leur âme a reçu en étant plus jeune, c'est personne n'est là pour te protéger. Tu l'as dit, personne ne s'est levé pour toi. Donc aujourd'hui, tu ne peux compter que sur toi-même. Et du coup, ça peut devenir des femmes, même des femmes à hommes, parce qu'elles ont l'impression que c'est elles qui contrôlent. Et puis, c'est comme t'es mon trophée, parce que je ne serai pas une victime. Donc c'est moi qui deviens la chasseuse. Et puis, ça peut se traduire de différentes façons. Mais c'est sûr que si vous êtes une mère, une aînée, une tante, une grand-mère, si une fille, une jeune fille, une enfant vient vers vous, prenez-la au sérieux et posez une action, parce que cet enfant a besoin d'être rassuré et vous êtes sa protection, et ça a déjà demandé beaucoup de courage de venir vous le dire. Donc n'ajoutez pas à sa honte. Aujourd'hui, ne choisissez pas votre réputation, ne choisissez pas votre confort, parce que cet enfant ou cette jeune fille est venue vous voir et elle attend votre aide, et c'est ce que Dieu vous demande de faire, et je crois qu'il vous donnera la force aussi. Dieu est toujours du côté de la justice, parce que c'est un Dieu de justice. Et je voulais aussi parler d'un autre point, Nadine, avec toi. C'est de Sichem lui-même. Mmh. Parce que Dina se retrouve dans cette relation qui est vraiment spéciale. Et en fait, écrit, Sichem la viole, donc Dina, mais ensuite il parle à son cœur. Quelle contradiction. Et pourtant, Dina accepte sa demande en mariage. Elle le laisse lui parler, lui donner les bons arguments, malgré l'acte odieux qu'il a commis envers elle. L'agresseur qui minimise son agression, un classique. Il nous dit que c'était plus fort que lui, que cela ne se reproduira plus. Il nous fait comprendre que c'était peut-être un peu de notre faute. Sichem a dû dire à Dina qu'elle était tellement belle qu'il n'a pas pu attendre de passer par les formalités normales de l'époque et demander sa main dans les règles. Il a dû lui dire qu'il l'aimait trop et ne voulait pas qu'un autre homme le supplante. Sichem semble repentant. Dina se dit sûrement « Cela ne se reproduira pas une fois que nous serons mariés. Il aura changé, il me respectera. Il s'assurera que je sois prête. Il voudra mon accord. » Est-ce que le discours de Dina, est-ce que la réflexion de Dina, bon, qu'on imagine plus ou moins, d'après ses actions, est-ce qu'on la comprend d'une certaine façon, mais est-ce qu'elle est juste ?
Elle n'est pas juste, mais elle est la réflexion de beaucoup d'entre nous, en fait. Parce que c'est facile de voir l'autre et de dire « Ah, elle n'aurait pas dû faire ça ouais. ». Mais en fait, quand on s'assoit et on s'examine nous-mêmes, on se rend compte aussi qu'on peut faire ça. Et je me suis toujours posé la question « Mais comment Sichem a réussi à lui parler ?» Je veux dire, pourquoi ne pas m'avoir demandé ma main au début, et puis après, on serait mariés, et puis on aurait pu le faire dans les règles de l'art. Pourquoi avoir fait les choses à l'envers ? Et je ne sais pas ce qui s'est passé au niveau de Sichem. Mais ça m'a amené à me poser la question au niveau de Dina. Comment est-ce qu'elle en est arrivée là, en fait? D'abord, de un, l'agression, c'est sûr que ça a laissé une marque en elle. L'agression, l'ennemi va te faire croire que tu n'es plus
tu es sale, que personne ne voudra de toi, que voilà, c'est normal en fait que ça, ça t'arrive et que tu ne peux, tu n'as pas d'autre choix que de rester là. Et du coup, tu te commences à te faire un film dans ta tête en te disant ok, là il est repentant, ça veut dire qu'il va changer, peut-être que ça prend juste que j'accepte, ça prend juste peut-être que la prochaine fois, etc., etc. Et en fait, tu rentres dans ce cadre, dans cette espèce de jeu, là, j'ai envie de dire, mais un système agresseur, ça va être un système agresseur plus tard. Quelqu'un qui t'a agressé, là on parle de viol, mais un homme qui t'a manqué de respect dans vos fréquentations, qui t'a tapé dans vos fréquentations, il va te taper dans votre mariage. Mmh. C'est la suite logique, en fait. Mais des fois, on veut tellement se convaincre.
Même s'il montre
par ses mots. Mais moi, je dis toujours que les actions parlent tellement plus fort que les mots. Mmh. Et ces actions, maintenant, vont montrer autre chose, en fait. Et alors que je pensais à ça, je me suis toujours dit, mais pourquoi ? Tu sais, j'ai réfléchi, mais pourquoi, Dina ? Pourquoi ? Mmh. Et après, je me suis dit, mais Dina, c'est qui ? Dina, c'est la fille de Léa.
Et voilà.
Et je me suis dit, ben... Qu'est-ce qu'elle avait, Léa ? Léa, c'était une femme qui, toute sa vie, a couru après la mort de son mari, qui, toute sa vie, le mépris de l'homme qui est supposé la protéger, l'aimer, était normal. Elle avait accepté.
Et c'était évident.
C'était évident devant les autres, devant les enfants. Et là, je me suis mis à parler. C'est sûr que la Bible, on en parlait avant l'émission, elle ne nous dit pas exactement c'était quoi l'histoire de Dina et Léa. On sait juste que c'était une mère et une fille, mais on n'a jamais vraiment vu... Aucune fois qu'on raconte un dialogue entre eux, on ne sait pas c'était quoi leur relation, etc. Mais je me suis permise de m'imaginer. Donc là, on imagine, on travaille ensemble, on s'imagine. Je m'imagine, je suis Léa, je suis une maman, il y a 11 garçons dans la maison parce qu'il y a aussi les enfants de Rachel et des servantes. Et puis j'ai une fille au milieu de ces garçons. Mm-hmm. C'est sûr que je vais avoir une relation avec elle. C'est sûr que c'est ma fille, c'est sûr que c'est ma petite princesse avec qui je parle. Mais qu'est-ce qu'on se dit ? Et là, je me suis mise à me questionner. Qu'est-ce que Léa disait à sa fille, Dina ? Est-ce qu'elle lui parlait à travers ses peurs, en lui disant, ben Dina, les hommes sont tous les mêmes. Mm-hmm. Et ça, aujourd'hui encore, il y a des mamans qui vont dire à leurs filles, parce qu'elles ont eu des difficultés, elles ont eu un mari difficile, les hommes sont tous les hommes, tu ne peux pas leur faire confiance, voici, voilà, voilà. Ou est-ce que Léa, au contraire, parlait à sa fille à travers une espérance, en disant, Dina, ben écoute, moi, je n'ai pas été aimée, mais toi, ta vie va être différente. Tu vois. Comment est-ce que Dina, dans tout ça, se voyait ? Est-ce qu'elle se voyait comme sa tante Rachel ou elle se voyait comme sa mère, ouais. Léa ? Et tu vois, tout ça, ça vient jouer après. Ça m'a amené à faire justement un chapitre sur les relations mère-fille. Parce que tout ça, ça nous amène aussi à voir que des fois aussi, dans nos façons d'agir, il y a des choses aussi qu'on a héritées.
Mais c'est exactement.
Héritées de nos parents, héritées de notre contexte familial.
Mais moi, ça me faisait penser. Pour moi, Dina, elle s'est dit... Ma mère, elle n'a jamais été aimée. Mm-hmm. Moi, je ne serai pas comme elle. Mm-hmm. Fois, on a dit, hein, on revoit des choses. Et puis, moi, je vais. Et je pense que le piège où elle est tombée, c'est que beaucoup de femmes croient que dans les relations. Parce qu'un homme couche avec toi, il t'aime.
Oui.
Que les relations sexuelles, c'est gage d'amour. C'est, mm-hmm. c'est le langage d'amour des hommes, mais pas des femmes. Mm-hmm. Moi, j'ai l'impression qu'elle a accepté tout ça parce ouais. qu'elle se disait, ben, ma mère, elle n'a pas eu d'amour, mais moi, je vais en avoir de cette façon-là. Mm-hmm. Je ne sais pas.
Ouais,
c'est pas écrit dans la Bible, mais ça m'amène à cette...
Ça nous fait vraiment réfléchir.
Et de
réfléchir.
Penser que le fait qu'elle a été violée, ben c'est comme, il m'aimait trop. Il y a beaucoup de femmes qui vont accepter des situations d'actes sexuels avant le mariage, parce qu'ils pensent qu'en faisant ça, c'est parce qu'ils m'aiment. Mm-hmm. Et parce qu'ils l'aiment, ils vont la respecter.
Ouais.
Mais par peur de le perdre, ou par peur de tout ça.
Mais c'est tellement vrai ce que tu dis. Parce qu'il t'aime, il va te respecter. Mais si autour de toi, tu as juste vu un amour irrespectueux, ben pour toi, tu crois qu'un amour, c'est irrespectueux, en fait. Mm-hmm. Et ça prend vraiment de revoir sa mentalité, d'être transformé dans son intelligence, renouvelée. Lorsqu'on sait, par exemple, qu'on vient d'un contexte familial compliqué, ben, il faut qu'on se positionne dans la parole et qu'il faut qu'on laisse la parole nous transformer en fait et mettre le nouveau standard. C'est pas le standard de ce que j'ai vu autour de moi, de peut-être mes amis. Je me suis dit, ben moi, ben mon mari, il est moins pire que les autres. C'est pas un moins pire qu'eux. C'est est-ce qu'il il est au standard voilà, de Dieu pour moi ? Est-ce que c'est un homme intègre, etc., etc. Et donc ça, c'est super important de faire cet exercice. Mais c'est difficile si on ne fait pas, on n'a pas le recul nécessaire pour se reconnaître aussi et dire, tiens, cette façon que j'ai de réfléchir ou d'agir, etc., n'est peut-être pas la bonne.
Mais c'est le besoin d'être aimée. Tu sais. Comment, Dina, moi, je me méditais, je me disais, c'est quoi son réservoir affectif? Je pense qu'elle avait besoin d'être aimée et peut-être que même malgré qu'il avait posé ses gestes horribles sur elle, elle avait, il a parlé, donc elle est tombée un peu dans cette...
Elle, avait elle a été de... manipulée.
Oui, ouais, parce qu'elle avait un réservoir affectif qui était vide. Mm-hmm. Et c'est pour ça que ça devient important de comment je nourris mon réservoir affectif, où je vais chercher l'amour, tu sais. Est-ce que je vais vraiment demander à Dieu de venir le remplir? Parce que quand on a tous besoin d'aimer, d'être aimé, c'est comme ça Dieu nous a créé.
Oui, moi je vois aussi le côté où, justement, comme on dit souvent, l'amour rend aveugle. Mm-hmm. Bah, où tu es prête parce que tu es maintenant amoureuse à accepter des choses qui ne sont pas acceptables. Ouais. Tout simplement parce que tu, c'est comme si tu ne le vois pas, en fait. Et on revient encore à cette question de l'entourage, où c'est aussi bien de parler, de ne pas toujours cacher des choses, parce que plusieurs personnes, c'est parce que les gens ne savaient pas qu'ils se sont retrouvés, en fait, dans des situations où quelqu'un te dit un truc, c'est vraiment... du n'importe quoi, entre guillemets, mais tes oreilles le prennent. Tu vois, comme là, on parle de Dina, quelqu'un finit de t'abuser et puis vient te raconter une histoire. Et puis toi, tu te dis, ah ben ok, si ça se trouve, tu réussis à trouver des excuses à cette personne-là. Et parfois, on trouve des excuses aux gens parce que l'amour rend aveugle, comme on dit. Parce qu'on est dans une saison où je suis juste amoureuse. Donc là, je me retrouve en train de trouver ces excuses-là. Donc parlons, il faut vraiment qu'on réussisse à parler, parce que c'est quand tu vas parler que les choses, peut-être que toi, tu ne vois pas, parce que tu es dans ce mood-là, mais les choses que tu ne vois pas, mais les gens autour de toi vont pouvoir le voir, pouvoir te conseiller, et pourquoi pas éviter aussi de se retrouver dans des relations abusives.
Et on parle du rôle de Léa dans le cas de la relation mère-fille, mais il y a aussi le rôle du père, en fait. Et on voit que Léa, elle est entourée de... elle était dans un environnement masculin, et puis finalement très... un environnement quand même qui a l'air assez brutal, parce que la réaction, c'est on met un plan en place pour tuer tout un village. Donc c'est assez violent comme façon de faire, et ça sort pas de nulle part. Et on peut aller aussi, puisque tu as fait cet exercice entre Léa et Dina, mais quelle était la relation entre Dina et son père, tu vois. Est-ce que tu parlais de réservoir affectif, mais est-ce qu'elle connaissait la valeur, est-ce qu'elle savait c'était quoi sa valeur en tant que femme, et je pense qu'une mère peut donner beaucoup à ses enfants et va donner beaucoup, mais un père, surtout vis-à-vis d'une fille, va lui donner un regard masculin qui est pas... Et je ne parle pas d'un regard malsain, mais ce premier regard masculin qu'une fille va avoir, normalement, ce regard d'amour, c'est censé être du père. C'est un regard qui est pur, un regard qui est valorisant, un regard qui est bienveillant et qui te dit « mais tu mérites quelqu'un de bien, tu vois ». Et souvent, quand tu ne l'as pas de la part de ton père, c'est là où tu saisis le premier qui te regarde, le premier qui te dit un petit mot gentil, le premier qui te fait croire que... tu as l'impression d'être aimé, tu as l'impression d'être quelqu'un de spécial, tu le prends, en fait. Mais quand tu as déjà été aimé par ton père et par tes frères aussi, et que tu te dis, mais en fait, j'ai déjà connu l'amour d'un homme, pas l'amour amoureux, mais un autre amour... mais qui était... Tu sais, il ressemblait pas à ça, en fait. Chez moi, on m'a jamais parlé comme ça. Chez moi, on m'a jamais traité de cette façon-là. Chez moi, je me suis sentie considérée. Chez moi, on pense que je suis intelligente, que j'ai quelque chose à dire. Excuse-moi, mais cette relation, elle m'intéresse pas, en fait, parce que tu m'apportes rien. Tu sais, je vois que tu me considères en dessous de ma valeur. Mais quand personne n'a jamais établi ce standard pour toi dans ta vie, tu peux te dire... c'est peut-être ça, en fait, l'amour. Et c'est ça, l'amour. C'est peut-être que ça que l'amour a à m'offrir. Et puis, je regarde ma mère. Écoute, ça n'a pas l'air d'être super. Ça a l'air d'être un peu ça. Et puis, je regarde, là, pour Léa, tu vois, elle regarde sa tante aussi. Sa tante est là, dans l'environnement familial. Il y a de la rivalité. C'est chacune pour soi. C'est que la meilleure gagne. C'est des coups bas, c'est de la jalousie, des critiques, des médisances, ou même les enfants sont entraînés là-dedans. Dans toutes ces rivalités familiales, c'est sûr que tu as une image du couple, du mariage, qui est quand même altérée et qui font que même si tu as des rêves de petite fille, ça peut juste rester des rêves en te disant tu sais, c'est juste c'est à la télé. Bon, Adina, c'était pas la télé, mais tu vois, c'est juste dans ma tête et c'est pas accessible.
Et souvent aussi, c'est que probablement on a tous dans nos familles des personnes, des frères, des sœurs, et qui sont plus vus que d'autres. Plus Rachel, pour moi, c'était la star, quoi, la belle fille. Elle avait tout. Eux, peut-être que Léa, toute sa famille, se sont dit, ben nous, on est les seconds violons, on est moins. Tu sais, on a dit le dit là, ils l'ont mis vraiment au début pour aller rencontrer Zéu. Donc tu vois, est-ce que tout ça, cette image de dire, moi, je vaux moins que les autres, ma famille à moi, elle vaut probablement moins que celle de Rachel. Donc, quand on a eu ça, ben, on dirait qu'on ne mérite pas le respect. Elle a pas pu, comme tu dis, le regard. Si Jacob aimait plus Rachel, puis que la Bible nous dit que Léa n'était pas aimée, est-ce qu'il prenait soin de Dinah? On ne le sait pas, on fabule. Mais je suis convaincue que toutes ces relations-là, de se penser moins à la hauteur, moins désirée, mais là, c'est là que tu fais des compromis, puis tu dis, ben, tant qu'elle n'a pas été aimée, mais...
Je vais t'aimer à moitié.
Ouais, je vais faire des compromis. Je vais prendre quelque chose qui est inacceptable, mais ton cœur, il le sait. Tu mérites mieux que ça.
Ben, c'est pour ça que c'est important de s'arrêter, en fait. Ouais. Et on peut être Dina parce qu'on vient d'un environnement déjà qui nous avait déjà prédisposé à être des Nina, parce qu'on a vu d'être mal aimée, etc. Il y a des familles, il y a des gens aujourd'hui qui sont issus des familles polygames. Hein. Ouais, et donc, ils ont vu déjà peut-être des choses, peut-être ils ont vu leur mère être maltraitée ou être mal aimée. Mais peut-être aussi, des fois, il y a des événements. Tu parlais, tu disais, ben, Dina était là, elle avait des frères, elle avait une grande famille. Si peut-être elle avait une relation avec son père, par exemple, qui était une relation où le père l'avait aimée, etc. Mais qu'est-ce qui fait que je suis devenue Dina un jour? C'est parce que j'ai eu une rencontre au bout d'une route, d'un Sichem, d'un truc qui m'a complètement brisée. Et là, ça a redéfini comme si ça repartit les compteurs à zéro pour moi. Et là, ça m'a complètement sortie de ma trajectoire. Et alors que je me rends compte que je suis en orbite, je fais quoi? Et alors que je me rends compte que je suis en orbite, ben, je m'arrête. Et je me dis, mais tiens, c'est pas normal. Pourquoi? Comment j'ai pu avoir tout ça en grandissant? Et là, j'arrive à ce point. OK, il y a quelque chose qui s'est passé. Alors, je dois maintenant m'arrêter et réaliser c'est quoi qui s'est passé. Peut-être c'est du mépris que j'ai vécu. Peut-être c'est l'abus dont j'ai vécu. Peut-être il y a quelque chose qui s'est passé qui m'a déroutée de ma ligne. Et vraiment, je m'assois et je fais le travail pour pouvoir revenir là-dessus. Et je fais aussi la distinction. Et là, je veux juste revenir par rapport à l'histoire de Rachel, de Dinah et sa mère, mais même des femmes qui nous écoutent, de faire la distinction entre l'histoire de notre famille et de nous. Tu sais, moi, j'aime toujours dire que quand la Bible dit dans Éphésiens qu'on est gens de la maison de Dieu, là, c'est que vraiment, c'est comme si notre arbre généalogique naturel est là. Et là, on a pris notre nom, on l'a enlevé, et puis on l'a mis Jésus, Dieu. Et puis nous, on est là. On est dans la famille de Dieu. Il faut réaliser que spirituellement, je suis dans la famille de Dieu. Et donc, l'héritage que j'ai pu avoir de ma mère, peut-être de mon père, tout ce que j'ai pu vivre, peut-être que oui, dans notre famille, il y a personne qui se marie, dans notre famille, les relations sont chaotiques, etc. Ça peut être mon héritage, entre guillemets, naturel. Voici comment je réagis. Mais maintenant que je suis un enfant de Dieu, je dois manifester l'héritage que j'ai dans ma vie chrétienne. Et c'est comme ça que tu commences à te défaire. Donc, okay, c'est vrai que je viens dans cet environnement-là, mais mon avenir, voilà, ne sera pas mon passé. Ça a l'air bateau, mais c'est vrai. Ton avenir va être différent parce que oui, tu fais partie de la famille de Dieu. Il y a un héritage différent qui est le tien. Et alors que tu réalises cela, ben, tu te mets maintenant à marcher. Tu réclames cet héritage, tu l'appliques dans ta vie et tu te mets à marcher en nouveauté.
Merci.
Le renouvellement de l'intelligence, c'est ça. C'est fort.
Et on n'est pas obligé de... On n'est pas... Vraiment, c'est important de l'accepter, de le croire par la foi. C'est que on n'est pas obligé de reproduire les mêmes schémas familiaux. Et ce n'est pas parce que mes parents l'ont vécu, mes arrière-grands-parents l'ont vécu, etc., etc. Non, ça peut s'arrêter à moi parce que je suis de la famille de Dieu.
La malédiction de génération en génération, mais avec Jésus-Christ, on amène la bénédiction pour les futures générations.
Alors Nadine, encore félicitations. Et tu nous parles de 9, 10 en fait.
Oui, avec Chépieux.
On ne vous dit pas le nom des femmes dont vous ne connaissez pas le nom. Mais en fait, comme disait Aurélie, il y a des portraits de femmes qui, de façon peut-être surprenante, vont vous parler. C'est peut-être pas celles pour lesquelles vous seriez attendues, mais à cause de la façon dont c'est raconté, mais aussi à cause des questions qu'il y a à chaque fin de chapitre que Nadine pose. Heureusement que tu n'as pas accès aux réponses, parce que c'est quand même des questions...
Il faut acheter son propre livre.
C'est pour ça que je me dis qu'il faut l'offrir à quelqu'un d'autre, parce que tu peux pas prêter ton livre après, parce que une fois que t'as rempli les questions, t'as livré ton cœur. Là, il y a des dossiers sur toi, mais c'est vraiment des bonnes questions.
Ça et, pousse à la réflexion.
Et franchement, ouais, moi, je me suis arrêtée sur les questions aussi pour prendre le temps de dire, mais Saint-Esprit, tu sais, quelquefois, c'est des questions, tu te dis, bon, c'est bon, je sais et tout, j'ai fait du travail. Mais non, Saint-Esprit, je veux prendre le temps que tu me parles. Et puis, j'ai été surprise quelquefois. Je dis, ah ouais, ok, d'accord, bon. Donc, merci Nadine, parce que grâce à toi, il y a des femmes que j'ai mieux compris leur histoire. Mais je dirais que plus que l'histoire de femmes, c'est l'histoire de Dieu dans la vie des femmes. Et c'est ce même Dieu qu'on a aujourd'hui, le Dieu qui a fait justice, le Dieu qui a protégé, le Dieu qui a fait des miracles, et c'est le même Dieu qu'on a aujourd'hui. Et qu'on soit dans une situation de détresse, une situation d'injustice, une situation de manque, une situation d'impossibilité, et bien nous avons le même Dieu, ce Dieu extraordinaire, celui qui n'a pas changé, et c'est celui qui veut aussi faire quelque chose pour toi. Et je crois que Dieu peut le faire à travers cette émission, mais que Dieu suscite aussi des outils tel que le livre que Nadine a pu écrire, Je suis comme elle, pour pouvoir nous ouvrir les yeux, pour qu'on puisse prendre le temps aussi qu'ils viennent faire un travail plus en profondeur. Il y a des choses, ça se passe comme ça, on entend une phrase, on a une révélation et gloire à Dieu, on aime ces moments-là. Et puis d'autres fois, on a besoin de plus de temps, on a besoin que la parole vienne descendre et d'être dans un moment favorable où le Saint-Esprit peut venir nous travailler. Et je crois que c'est ce que le Saint-Esprit veut faire comme œuvre dans votre cœur à travers ce livre. Donc prenez ce livre et prenez le temps de pouvoir le lire et de laisser le Saint-Esprit faire une œuvre en vous. Je crois qu'il y a un potentiel de restauration, de guérison et de délivrance à travers ce livre, parce que c'est pas le livre de Nadine, c'est le livre de ce que Dieu a fait dans la vie de plusieurs femmes et dans la vie de votre vie à vous aussi. C'est ce même Dieu. Alors merci Nadine.
Merci.
Livre disponible sur nadinekabouya.com et on ne peut que vous le recommander, ainsi que les livres de mes sœurs ici présentes, Aurélie et Stéphanie. Mais aujourd'hui, c'est le jour de Nadine. Si aujourd'hui vous achetez un livre, c'est celui de Nadine. nadinekabouya.com. Merci beaucoup Nadine.
C'est super. Il y a des pipettes là-dedans, faut se le procurer.
Bye bye, à vendredi.
Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des partenaires de MCI. Retrouvez toutes les émissions à table avec Annabelle sur emcitv.com.